Okapi. Encore plus d'infos.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien, au Okapi Service. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous servir. Passation des marchés dans le domaine des infrastructures, quelles sont les conséquences du non-respect des procédures? On en parle avec Michel Ouyungu, président de la Corporation des ingénieurs BTP de la RDC. Ingénieur Michel Ouyungu, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Bienvenue dans cette émission. Nous avons en ligne monsieur Ernest Imparero, président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption, l'ICOCO en sigle. Monsieur Ernest Imparero, bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien. Fidèles auditeurs, vous voulez participer? Composez le 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler des préalables à remplir pour se lancer dans la fabrication des batteries des véhicules électriques. C'est à partir des 11h05 heure de Kinshasa. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine La Vie au quotidien. Marcel Ngombo assure la coordination, Tati Mapoukou est à la réalisation, Alain Goy à la mise en onde au micro. C'est jeudi, Daniel Keshama. Bienvenue à tous.
Vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader.
Responsable politique, haut cadre d'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires. Connectons-nous, faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 629 11 54 ou alors par email femmeleader@gmail.com.
Encore une fois, bienvenue dans ce magazine Okapi Service. Aujourd'hui, nous allons parler de la passation des marchés publics dans les secteurs des infrastructures qui est souvent gangréné par la corruption selon les informations reçues. Ces marchés concernent la construction des routes, ponts, édifices publics, etc. Généralement, les marchés se passent de gré à gré. Certaines entreprises trouvent des raccourcis pour accéder à la commande publique où les agents de l'État font preuve de favoritisme à l'égard de certains soumissionnaires. Alors, selon les experts, la corruption a souvent des incidences sur la qualité des ouvrages réalisés. Michel Ouyungu, vous êtes président de la Corporation des ingénieurs BTP. Encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Alors, d'après quel état des lieux vous faites de la passation des marchés, surtout dans votre domaine, dans le domaine des infrastructures?
Merci, monsieur Jody. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci de nous associer à ce débat citoyen, un débat combien intéressant. Si on peut faire tout de suite là un état des lieux sur le secteur de la passation de marché dans le secteur des infrastructures, nous allons tout de suite nous rendre compte que c'est désastreux. C'est désastreux parce que c'est un secteur qui est vital pour la République. Laisse-moi vous dire, monsieur Jody, que le marché public et la délégation de services publics, parce qu'il faut parler de ça aussi, c'est au travers de ces deux aspects que l'État finance le projet d'investissement, le projet de développement et le moyen par lequel l'État paie donc venir au secours des entreprises privées. Mmh. Et ce domaine, à lui seul, marché public et délégation de services publics, c'est un domaine qui représente un peu plus de 60% des dépenses du budget de l'État.
Près de 60%.
Un peu plus même de 60% des dépenses du budget de l'État congolais. Mmh. Ça veut dire que si nous avons un budget de 5 milliards, il y a 3 milliards qui concernent cet aspect de choses, donc marché public et délégation des services publics. Et pour cela, le législateur congolais a pensé à encadrer ces domaines de marché public et de délégation des services publics par des lois. Il y a une loi, la loi principale, donc la loi 10/010 du 25 avril 2010, relative au marché public. Mais il y a aussi la loi des finances publiques, il y a la loi sur les partenariats publics-privés et les différentes mesures d'application de ces lois-là. C'est-à-dire que pour l'État, comme l'essentiel des dépenses publiques, des dépenses du budget de l'État passent par le marché public et la délégation de services publics, c'est par là qu'il fallait mettre un accent particulier sur l'encadrement juridique. Mais malheureusement, nous avons de très bons tests, mais qui souffrent de la bonne application. Mmh.
Monsieur Ernest Imparero, vous êtes président de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption. Nous parlons de la passation des marchés publics dans les domaines des infrastructures. Et notre invité, Michel Muyumbu, nous a dit tout à l'heure que ça représente plus de 60% du budget de l'État. Quel état des lieux vous faites de la corruption dans ces secteurs?
Bon, merci beaucoup. Je pense que le premier intervenant venait déjà de le dire. Il y a à peu près 70% de notre budget, les dépenses budgétaires qui sont affectées aux travaux publics, à la construction des routes et ainsi de suite. Et dans tout ce qui se passe, étant donné que nous avons des lois, la loi sur les passations des marchés, est-ce que les officiels, est-ce que les organisations de l'État respectent les processus? Nous pouvons dire non. Pourquoi? Parce que nous avons vu, par exemple, les cas du contrat chinois, comme ce sont l'argent qui est venu, c'est de l'argent qui est venu du gouvernement chinois. Le gouvernement congolais n'a pas voulu même donner des conditions. Et ce sont des Chinois eux-mêmes qui exécutent, étant donné que l'argent vient de chez eux. Aujourd'hui, le chef de l'État est en train de chercher l'argent. Ils ont conclu des contrats avec les entreprises égyptiennes. Et ces entreprises égyptiennes vont construire des infrastructures routières au Kasaï. Est-ce que le gouvernement a dit, écoutez, même si c'est votre argent, même si c'est de l'argent qui vient des partenaires privés, mais passons au processus de passation des marchés. Nous ouvrons la compétition pour que toutes les entreprises, et là encore, c'est non. Ce sont des Égyptiens eux-mêmes, comme c'est eux qui viennent avec l'argent, même mm-hmm. s'il y aura une petite contribution du gouvernement à travers les fonds de promotion de l'industrie, mais ce sont le plus grand donateur, ce sera les Égyptiens. Mm. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne va pas favoriser les entreprises égyptiennes parce que c'est elles qui viennent avec l'argent? Nous disons oui. Mais maintenant, est-ce qu'on pourra avoir de bonnes infrastructures? Est-ce que nous avons des bureaux de contrôle qui vont faire pression, qui vont contrôler efficacement pour qu'on construise des routes qui vont durer 10 ans, 15 ans? C'est ça le plus grand problème, étant donné que nous assistons effectivement à des services de contrôle à l'interne qui ne remplit pas leur rôle. Et c'est comme ça que nous avons des infrastructures aujourd'hui. Par exemple, les routes qui ont été construites par les Chinois, ces routes sont en train de s'abîmer, il n'y a pas d'entretien de caniveaux, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Et lorsqu'il y a une pluie qui tombe, c'est vraiment la rivière au sein de nos routes. Et pourquoi? Parce que les services de contrôle de l'État ne jouent pas leur rôle, étant donné que soit ils sont corrompus, soit ils subissent des pressions politiques pour qu'ils ne puissent pas remplir leur mission. C'est ça la plus grande situation que nous avons aujourd'hui en RDC.
Michel Oyumbu, par rapport aux Égyptiens qui doivent venir, et si c'est eux qui apportent les capitaux, est-ce que les procédures sont les mêmes ou à ce moment-là, ça change un peu?
Merci beaucoup, M. Jody. C'est ça la difficulté, comme venait de l'évoquer notre ami Ernest. C'est que si les capitaux viennent d'ailleurs, il a déjà dit, c'est ceux qui amènent les capitaux qui fixent les règles du jeu. Et ça, c'est inadmissible de toute façon. Parce que quel que soit le type d'accord qu'on aura conclu avec nos partenaires extérieurs, mais ce sont généralement des dettes que nous allons rembourser. Ça veut dire que c'est notre argent d'une manière ou d'une autre.
Même ça ne si se fait pas gratuitement, même non, si non, ils apportent les capitaux.
C'est pas gratuitement. Mmh. Ça veut dire que nous aussi, nous devons avoir un mécanisme pour que la rigueur soit faite et que les infrastructures pour lesquelles nous allons bénéficier soient des infrastructures et de qualité. Et ça, c'est un autre débat. Et un autre débat sur la qualité de ces infrastructures. La question, ce n'est pas seulement parce que les capitaux viennent d'ailleurs, même des infrastructures qui sont construites sur fonds propres, et nous avons aussi ces problèmes de qualité des infrastructures. Et il n'y a pas que la qualité qui est affectée par le non-respect des procédures. Nous avons dans ce pays des chantiers qui ont été initiés par l'État, financés par le fonds propre du gouvernement, qui sont inachevés. Et si vous essayez de fouiner là-dedans, vous allez vous rendre compte qu'évidemment, ce projet a commencé et qu'il n'y avait pas un crédit pour ce projet. Ça, c'est encore un problème de non-respect des procédures. Parce que d'après la loi sur la passation de marché public, vous ne pouvez pas initier un projet pour lequel les crédits n'existent pas. Et la conséquence, c'est qu'à un certain moment, le mécanisme sera bloqué. Mmh. Il n'y aura plus de crédits pour ces projets-là. Et conséquence, le projet va rester inachevé. Ça aussi, c'est très désagréable.
Bien, on va accueillir Laurent Mignon, l'IPASA de Kananga. Bonjour, Laurent. Bonjour, Laurent.
Journaliste.
Quelle est votre question, Laurent?
Je remercie vraiment tous les auditeurs de la radio Capu, mais aussi l'invité au studio. Merci beaucoup pour cette opportunité.
Quelle est la question? Passez rapidement à la question, Laurent.
J'aimerais un peu demander à l'invité quelles sont les sanctions que l'État congolais préconise pour toutes les personnes qui ne respectent pas les procédures dans la protection des marchés publics. C'est un peu ça ma question.
Merci Laurent. Monsieur Ernest Imparero.
Merci Laurent. Monsieur Ernest,
vous avez la parole.
L'État de l'État qui a favorisé peut être sanctionné administrativement. Et lorsqu'il y a des cas avérés de corruption, comme dans les procès des 100 jours, on peut être arrêté et sanctionné judiciairement. Donc il y a deux types de sanctions. Soit on vous sanctionne administrativement, soit on vous sanctionne juridiquement. Et à ce moment-là, vous êtes arrêté et envoyé en prison.
Bien, voilà. Michel Oyumbu, un complément par rapport aux sanctions prévues?
Ah non, je pense que M. Ernest a déjà tout dit. Mmh. Donc, s'il y a non-respect des procédures, et il y a des sanctions qui sont prévues. Mais quand la
corruption s'installe, il y a des réseaux, les gens se couvrent, il est difficile même de...
Les mécanismes, c'est qu'il y a, mais c'est aujourd'hui un organe de régulation. Il y a l'autorité de régulation de marché public. Cette autorité, cette structure de l'État qui est en charge de faire la régulation, fait aussi un contrôle a priori des marchés publics. Moi, je pense que c'est une structure qu'on a mis en veilleuse pour des raisons que nous ne comprenons pas, alors que l'ARMP est mise sous autorité du Premier ministre. Malheureusement, cette structure est presque absente sur le terrain des marchés publics, alors que si on essaye de réactiver cette structure d'autorisation de régulation de marché public et qu'on donne à la structure des moyens pour mener sa politique, il y aura sensiblement réduction de non-respect des procédures parce que cette autorité a tout l'arsenal qu'il faut pour essayer de réguler sur les marchés publics. C'est de la même manière que l'IGF. C'est un peu l'IGF des marchés publics. Alors si on peut réactiver cette structure de l'État, et là j'ai lancé un appel au Premier ministre qui nous écoute, que cette structure, l'autorité de régulation des marchés publics, doit être vraiment réactivée et que le moyen lui soit donné pour qu'on puisse réduire le non-respect des procédures en matière de passation de marchés publics. Et généralement au niveau de l'autorité, je me rappelle à 2013, cette même autorité de régulation des marchés publics avait commandé l'audit de marché public et dans les structures de l'État. Et le résultat de cet audit, le résultat lui avait été transmis par les cabinets d'audit, nous avons été invités, nous avons pris part. C'était dans un hôtel de la place, à la présentation des résultats de l'audit sur le marché public. Mais à cette époque-là, il y avait de plus mauvais élèves. À 2013, c'était la primature et je crois d'autres institutions les plus placées de la République.
Et quelles sont ces procédures qu'il faut respecter à tout prix? dans la passation des marchés publics.
Ah non, là on doit entrer dans le fond de la loi. La loi relative aux marchés publics, qui est un cadre légal en matière de marchés publics, définit très bien le rôle des institutions, le rôle des intervenants et les principes fondamentaux pour que les procédures ne soient pas biaisées. Ou par exemple, s'il y a des appels d'offres, ces appels d'offres-là doivent être transparents. Ça veut dire qu'on doit faire la publicité. Et l'accès à la commande publique est libre pour tout le monde qui veut soumissionner, qui remplit les conditions. Et il y a le principe d'équité, et il y a le principe d'efficacité, d'efficience. Donc, il y a des principes fondamentaux qui régissent le marché public pour lesquels l'ensemble de la loi relative au marché public et des mesures d'application repose sur ces principes-là. Et il y a d'autres principes, par exemple, les fonctions de gestion, les fonctions de passation doivent être menées par des institutions totalement différentes. Donc, chaque institution a, c'est comme, le marché public, c'est comme, qu'est-ce que je dirais? C'est comme un grand orchestre symphonique où chacune des composantes joue un rôle particulier.
Joue sa partition. Voilà.
Je me rappelle le conflit qui a éclaté il n'y a pas longtemps, j'ai lu ça sur la presse en ligne, où un gouverneur de la place avait signé un contrat avec une entreprise pour l'exécution de travaux. Mais l'autorité de régulation du marché public lui avait rappelé qu'en tant que gouverneur, il n'avait pas compétence. Et qu'un marché qui est signé par une autorité contractante n'ayant pas compétence, c'est nul.
Mmh. Et cela a été dit comme ça. Les travaux n'ont pas eu lieu.
C'est un marché nul. Oui. Parce que l'autorité qui a contracté le marché n'avait pas la compétence de le contracter.
Tout devait passer par l'autorité.
L'autorité contractante, et tout devait passer par les autorités d'approbation parce qu'il y a plusieurs institutions et chacune des institutions joue son rôle. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer un marché de gré à gré, par exemple, sans avoir obtenu l'aval de l'autorité qui gère le contrôle des marchés publics, la direction générale de contrôle des marchés publics, la DGCMP. Vous ne pouvez pas passer un marché de gré à gré sans que vous ayez motivé votre décision de faire le gré à gré et sans obtenir ce qu'on appelle l'anneau ou l'appel de non-objection. L'avis de non-objection, vous voulez dire.
Oui. On va accueillir Mathieu Cassi depuis Béni. Bonjour Mathieu. Mathieu, bonjour. Il n'est plus en ligne. Monsieur Ernest Parero. Alors, aujourd'hui, on parle d'opérations retour. Je vous octroie un marché. Bon, pensez, vous allez me retourner peut-être 70% du financement et les restes, débrouillez-vous pour aller faire exécuter les travaux. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Effectivement, c'est ce qui est fait actuellement. Et lorsque nous avons des ouvrages qui ne sont pas de meilleure qualité, c'est parce qu'il y a eu effectivement des commissions retour. Donc, dans les commissions de retour, l'entrepreneur qui a gagné le marché, il va envoyer une facture vraiment très, très, très salée. Par exemple, des infrastructures qui devaient être construites pour un coût de 1 million de dollars. Étant donné qu'il va retourner l'argent, il va envoyer la facture à 1 300 000. Et les 300 000 qu'il va gagner, il va rembourser à celui qui lui a donné le marché et lui reste avec les 1 million pour qu'il ne puisse pas effectivement tomber dans un cycle où il ne sera pas capable de réaliser les infrastructures. Qu'est-ce qui se passe? On surfacture les ouvrages pour effectivement payer les commissions retour. Ça, c'est la première chose. Mais pour la seconde chose, les dix ans passés, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que effectivement, on vous paye 1 million, vous retournez 300 000 dollars et vous restez avec 700. Avec 700, vous essayez de faire ce que vous pouvez faire. Prenez le cas de l'avenue du 24, qui va de Bandal jusqu'à Lipène, en passant par Selembao. Il y a eu une entreprise Afritech qui avait gagné le marché. Et cette entreprise-là n'a pas bien fait le travail. D'ailleurs, son DG avait été arrêté au parquet et quelques mois après, il a été mis en liberté provisoire et il s'est enfui du pays. Donc, vous voyez que cette route, si vous empruntez la route Bandal jusqu'à Lipène, en passant par Selembao, c'est l'avenue 4 qui va jusqu'à Lipène, vous voyez vraiment que les travaux n'ont pas été faits comme il le fallait. Pourquoi? Parce qu'il y a eu effectivement des commissions retour. Et les commissions retour ont des conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est que nous avons de mauvaises mauvaises infrastructures ou de mauvaise qualité des infrastructures, et après quelques temps, les infrastructures se dégradent. Et à ce moment-là, ça peut causer des accidents et mort d'hommes. Donc, vous voyez que la corruption au sein de ces infrastructures peut amener même jusqu'à ce qu'il y ait mort d'hommes, jusqu'à ce qu'il y ait des accidents qui peuvent nous être très, très, très fatales. Donc, ce sont des choses que nous vivons et nous devons les dénoncer. C'est pourquoi que nous, au niveau de notre organisation, nous proposons à ce que le gouvernement puisse adhérer à l'Open Contracting Initiative, qui est une initiative mondiale où tous les États publient, publient les informations de tous les processus de passation des marchés pour effectivement qu'il n'y ait plus d'entreprises qui vont commencer à payer les commissions retour. Et lorsqu'il y a ces entreprises-là, on les met sur une liste noire. Et la liste noire, vous ne pouvez plus accéder à tout marché public au niveau national. Et avant même qu'il y ait publication des contrats, les entreprises soumissionnaires doivent signer un pacte d'intégrité. Et ce pacte d'intégrité dit que dès que je soumissionne, je ne peux pas payer les pots de vin aux agents de l'État, je ne peux pas payer des commissions retour, je m'engage à remplir la mission qui m'a été confiée par le gouvernement. Et le pacte d'intégrité lie la société au principe d'éthique, au principe de transparence et au principe de lutte contre la corruption. Et c'est à ce moment-là que vous aurez des infrastructures qui sont durables et qui peuvent durer dans l'État et à un coût raisonnable pour nos États.
Bien, on va accueillir Raphaël Debounia. Bonjour. Bonjour Raphaël. Raphaël, vous êtes en ligne, bonjour. Il n'est plus là, il va certainement nous rappeler. Monsieur Michel Oyumbo, vous avez suivi. Donc la corruption, ça impacte même la qualité des travaux qui sont réalisés sur le terrain.
Oui, mais certainement. Certainement parce que si l'entrepreneur qui doit exécuter des travaux n'a pas l'ensemble des moyens pour les exécuter de la bonne manière telle que stipulée dans le précision technique de son contrat, mais il va commencer à tricher sur les quantités, il va commencer à tricher sur les dosages et tricher même sur la qualité de matériaux. Et la conséquence, c'est que nous aurons des ouvrages qui ne seront pas en mesure de répondre aux besoins pour lesquels ils ont été construits. Donc c'est un phénomène qui est vraiment très désastreux et qui nous met dans des situations beaucoup plus complexes. Donc d'une part, vous avez une qualité des ouvrages qui n'est pas une très mauvaise qualité, et d'autre part, vous avez un coût très excessif des ouvrages, et finalement, vous posez la question, mais qu'est-ce qui se passe? On va revenir chaque 2 ans, et chaque 3 ans sur une route pour la réhabiliter, et tout simplement parce que au niveau de l'exécution de travaux, il y avait eu peut-être pas la corruption, peut-être aussi un choix non rationnel. Parce que le but de procédure de passation de marché, c'est de choisir parmi toute une gamme de prétendants au poste le meilleur possible, le meilleur qui peut offrir aussi bien la capacité technique que la capacité financière pour exécuter des travaux dans de très bonnes conditions.
Le meilleur, c'est lequel? C'est celui qui demande moins, qui a une facture pas trop salée par rapport aux autres?
Non, le meilleur, c'est pas par rapport aux coûts. Le meilleur, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut observer. Le coût n'est qu'un de ces éléments. Imaginez-vous, M. Jody, quelqu'un vous dise qu'il va vous construire une maison en étage et qui a peut-être 300 mètres carrés à 5 000 $. Bon, il est moins cher. Mais est-ce que financièrement, il est à mesure de construire une telle maison à ce prix-là? Donc, le meilleur, c'est par rapport à toutes les conditions techniques. Le meilleur, c'est par rapport à toutes les conditions financières que l'entreprise peut réunir. Donc, le meilleur, ce n'est pas tout simplement le moins disant comme le prétendait à une certaine époque, mais c'est celui qui offre toutes les garanties et l'offre qui est, telle qu'on le dit, la plus avantageuse.
Voilà. Nous parlons de la passation des marchés publics. Quelles sont les conséquences du non-respect des procédures? On a retenu Monsieur Ernest Mparero a cité le cas de l'avenue 24 novembre en allant vers UPEN, qui a été mal réalisé parce qu'il y a eu cette affaire d'opération retour.
Oui, mais c'est jeudi, c'est...
Le seul cas, il y en a plusieurs à travers le pays, des cas comme ça.
Non, mais laisse-moi vous dire que dans tous les pays du monde, les infrastructures, les travaux publics sont de grosses affaires. Ce sont des affaires de beaucoup d'argent. Et dans tous les pays du monde, il y a toujours soit tentative de corruption, soit corruption. Et il faut mettre un mécanisme pour essayer de réduire le phénomène de non-respect des procédures, le phénomène de corruption, ainsi de suite. Non, les mécanismes, on les met. Mais à partir du moment où vous avez un mécanisme, il faut veiller à ce que ce mécanisme soit appliqué. C'est pas pour rien que j'étais en train de vous dire qu'ici nous avons une autorité de régulation du marché public. Lui, son rôle, c'est ça. Le contrôle a priori. C'est vraiment ça son rôle. Alors que la direction générale de contrôle des marchés publics fait le contrôle a posteriori. Le contrôle sur la procédure. Pendant qu'on est en train de mener une procédure, étape par étape, est-ce que la procédure elle est bonne? À la fin de la procédure, est-ce qu'elle a été bien menée? Pendant l'exécution des travaux, pendant que l'entreprise est en train de remplir son contrat, est-ce que les procédures sont très bonnes? Donc, il faut qu'on mette... On a mis des structures, bien sûr. On a un cadre légal qui existe. On a un cadre procédural qui existe. Et on a aussi un cadre institutionnel qui existe. Maintenant, c'est le bon fonctionnement de ces différents cadres. Aussi bien du cadre légal, du cadre institutionnel, que du cadre procédural. Donc, il faut veiller pour que ces procédures soient respectées. Il faut veiller pour que chaque institution remplisse son rôle. Il faut veiller pour que les principes qui font de même la loi relative au marché public soit respectée. C'est l'ensemble de ces exigences-là qui fera ce que nous puissions obtenir des infrastructures de très bonne qualité, construites à des coûts raisonnables.
Voilà. Alors, Monsieur Ernest Parero, quelles sont les solutions que vous proposez? C'est pas aujourd'hui qu'on parle de cette affaire, corruption, opacité, tout ça, les marchés de gré à gré, il n'y a pas assez de transparence. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce point pour avoir des ouvrages publics de qualité?
Effectivement, avant même de répondre à cette question, il y a aujourd'hui un débat énorme sur les contrats chinois. Et sur les contrats chinois, il y a dans beaucoup de rapports, les rapports de l'ITIE, on nous dit qu'il y a un kilomètre que les Chinois ont construit à l'Outendele, mais qui nous a coûté 15 millions de dollars. Toi, tu t'imagines ça? Un kilomètre de route, ce n'est même pas des routes souterraines, ce n'est même pas des sauts de moutons, mais une route normale qui nous coûte 15 millions de dollars. Ça, c'est un débat. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment prévenir? Je pense que, un, il faudrait d'abord qu'on active les structures de contrôle, dont l'ARMP, l'autorité de régulation. Deuxièmement, il faudrait qu'on sanctionne. Si le gouvernement est vraiment très fort, il devrait demander, par exemple, aux entreprises chinoises qui ont construit un kilomètre pour 15 millions, qu'ils puissent justifier comment est-ce qu'un kilomètre peut prendre 15 millions. Comment est-ce que c'est un tunnel? Est-ce qu'on ne comprend pas? Deuxièmement, il faudrait qu'il y ait des sanctions et il y ait réparation. Parce que lorsqu'on nous trompe, lorsque les gens trichent, lorsque les gens détournent, ils doivent réparer le préjudice. Et réparer le préjudice, c'est de dire, écoutez, avec nos 15 millions que vous nous avez trompés, construisons 15 kilomètres. Et on contrôle s'il a construit les 15 kilomètres. À ce moment-là, le gouvernement rentre dans ses droits. Or, ce qui s'est fait, ce n'est pas ça. Donc, nous pensons qu'il doit y avoir des contrôles et il doit y avoir des sanctions et des réparations du préjudice subi. Pourquoi? Parce que c'est nous, citoyens, qui sont victimes de tout cela. Lorsqu'il y a 15 millions qui se dilapident comme ça, c'est des écoles qu'on devrait construire, c'est des hôpitaux qu'on devrait construire, c'est des routes de déserts agricoles qu'on devrait réhabiliter pour que nos parents qui vivent dans les villages puissent écouler leurs marchandises et ça contribue au développement. Et s'il se passe là, je pense que nous allons toujours tourner en rond alors qu'il y a des gens qui nous trompent, les gens qui fraudent, les gens qui détournent les deniers publics à travers, effectivement, ces genres de mécanismes pour, effectivement, s'enrichir eux-mêmes.
Bien, Raphaël, vous êtes à Bounia. Bonjour.
Oui, bonjour, Jody. Bonjour à l'invité.
Quelle est votre question, Raphaël?
Oui, ma question est celle-ci. Premièrement, j'ai un petit témoignage à propos des... Comme l'invité venait de dire là, les infrastructures qui sont les chemins, sont laissés. Vous voyez, même toutes choses que les Chinois fabriquent ne durent pas. Même les batteries, même les téléphones que nous avons aussi, ça ne dure pas. Vous achetez, après 2 à 3 mois, vous allez commencer à observer les défaillances.
Bon, ça, il faut le prouver, parce qu'il y a certains produits fabriqués par les Chinois et
oui,
qui durent.
Ça ne dure pas. même les routes ici que les Chinois nous ont laissées. Après 2 à 3 ans, toutes ces routes sont devenues très, très, très...
impraticables.
Très mauvaises routes. Oui, impraticables aussi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen de chercher d'autres initiatives colliées de ceux-là? Parce que leurs infrastructures ne durent pas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de chercher d'autres experts à ça, collés de ces gens-là? C'est ça la question.
Bien, merci Raphaël. Ingénieur Michel Oyombo, vous avez la parole.
Merci beaucoup, M. Jouti. Les mêmes Chinois qui fabriquent des routes qui ne durent pas en Afrique fabriquent de très belles routes aux États-Unis d'Amérique.
Les mêmes Chinois.
Les mêmes Chinois. Ça veut dire que le problème n'est pas au niveau du Chinois. Le problème, c'est à nous, bénéficiaires de ces routes. C'est à nous qui commandons ces routes. C'est à nous de mettre un mécanisme de contrôle, comme l'a dit M. Ernest, et un mécanisme inséré dans le respect des procédures, inséré dans le respect des prescriptions techniques, de toutes les exigences, pour que nous ayons des routes de très bonne qualité. Le Chinois, lui, il est venu chercher l'argent. Il se comporte comme un caméléon. Il s'adapte aux couleurs du lieu où il se trouve. S'il se rend compte qu'ici, il peut se transformer en couleur bleue, ben il prend la couleur bleue. C'est à nous de mettre des mécanismes pour que nous puissions réduire sensiblement tous les méfaits, de manière à ce que les routes ou les infrastructures qui nous sont construites par les Chinois soient de très bonne qualité, parce que les mêmes Chinois, peut-être avec d'autres entreprises, mais ce sont des entreprises chinoises installées ailleurs, comme aux États-Unis, où fabriquent de très belles routes. Et là, il n'y a pas de débat.
Bon, les gens se plaignent souvent, tout ce que les Chinois fabriquent, ça ne dure pas. Et tout ça, on a des routes qui ne durent pas longtemps. Quelle est la durée de vie d'une route, ingénieur Michel?
Il est évident qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Ça peut être une route non revêtue, une route revêtue. Mais pour une route, prenons le cas d'une route revêtue, mais sa durée de vie minimale, c'est au-delà des 10-15 ans.
Est-ce que la plupart de nos routes aussi peuvent atteindre peuvent durer ces années-là?
Non, mais laisse-moi vous raconter une petite blague. J'étais en train de suivre une petite blague au Québec où une route qui a été construite s'est dégradée 8 ans après et cela fait un grand débat. Un grand débat parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'une route qui a été construite où les études ont été très bien menées, l'exécution a été très bien surveillée, se dégrade 8 ans plus tard. Il y a eu un débat et des têtes sont tombées au Canada.
Mais il y a eu corruption quelque part.
La route a fait 8 ans quand même avant que c'est dégradé.
Oui.
Mais pour eux, c'est inadmissible que la route se dégrade 8 ans après. C'était une route asphaltée. Mais je me suis dit, mais chez nous...
Elle devait faire 15 ans.
Chez nous, les routes qui ont été réhabilitées dans le cadre du projet de 100 jours, 2 ans après sont la plupart dégradées.
2 ans après.
2 ans après, parce que sur beaucoup de ces routes, vous allez les trouver dans un état de dégradation très avancé. Donc une route qui a été très bien construite, il faut y ajouter aussi, dont l'entretien se fait régulièrement, doit durer, si elle est asphaltée, elle doit atteindre une durée de vie de 10-15 ans.
10-15 ans.
Même plus.
Est-ce que ça ne dépend pas aussi du trafic qu'il y a sur cette route-là?
Mais le trafic a été pris en compte dans les dimensionnements. Justement, les différentes dimensions de différentes couches qui constituent la route, et le trafic, c'est un des éléments majeurs du dimensionnement. C'est par rapport au trafic qu'on décide si on doit asphalter une route, si on doit l'asphalter comment, quelles sont les épaisseurs des différentes couches. C'est le trafic qui est un des éléments majeurs de ces dimensionnements-là. Donc, on doit savoir le trafic avant. On l'a dimensionné comme tel. On a bien surveillé. On a bien exécuté les travaux. Voilà la durée de vie minimale. Et là, je suis d'accord avec M. Ernest. Il faudrait qu'au niveau du ministère des ITPR, qu'on engage les entreprises dans des pactes d'intégrité et des pactes de qualité. Parce que si l'entreprise ne se sent pas redevable, si l'entreprise sait que si la route que lui a construite va se dégrader dans moins avant la durée de vie, que l'entreprise sera mise sur une liste noire, même les associés de cette entreprise aussi. Parce que généralement, si vous mettez une entreprise sur une liste noire, ben écoutez, l'entreprise change de nom, il en devient c'est une autre entreprise. Mais il va falloir mettre aussi et l'entreprise et les associés de cette entreprise sur une liste noire. Dans ce moment-là, il y aura une redevabilité. Les gens vont se dire, tiens, il faut faire trop attention. Si les travaux que nous faisons, la route qui sera construite n'est pas très bonne, se dégrade avant, parce qu'il y a eu telle raison et telle autre raison, bon, nous allons nous retrouver dans une situation très inconfortable. Dans ce cas-là, ils prendront des mesures.
Voilà.
Et on nous dit souvent qu'un kilomètre de route, c'est $1 million. Mais là, quand on nous parle d'un kilomètre de route à Lutendé, les 15 millions de dollars déboursés, expliquez-nous, monsieur.
Non, moi,
ingénieur Michel, on voudrait bien comprendre.
Moi, je ne crois pas qu'un kilomètre de route coûterait $1 million. Ça, c'est tout, ça fait. Tout à fait.
C'est tout ce qu'on entend.
C'est une affirmation gratuite, tout ça. Parce que
oui.
Les coûts d'une route dépendent de beaucoup de paramètres. Vous n'allez pas me dire que si vous passez un kilomètre de route sur les marécages, vous payerez $1 million. Et vous passez un kilomètre de route sur les montagnes, vous payerez $1 million. Et un kilomètre de route construit localement, ici à Kinshasa, sur la Varie, coûte $1 million. Un kilomètre de route qu'on va construire à Popokabaka coûterait $1 million. Tout ça, ce sont des arguments et pour moi, c'est gratuitement que les gens affirment ça. Mmh. Il y a un coût sur chaque kilomètre de route. Ce n'est qu'une appréciation où les gens disent un coût moyen, mais le coût moyen n'est pas une règle. Le coût moyen n'est qu'une exception. Donc, les kilomètres de route coûtera par rapport aux difficultés qu'il y a. Imaginez-vous si, il y a des endroits, mais c'est aujourd'hui des endroits où moi j'ai parcouru, où sur une distance d'un kilomètre, vous traversez par exemple 10 à 15 rivières. Sur une distance d'un kilomètre. Ça veut dire que si vous faites un kilomètre de route là-bas, vous aurez à traverser 10, 15 ponts. Vous ne me direz pas que sur cet endroit-là, ce kilomètre de route coûterait $1 million. Donc, c'est affirmé gratuitement, c'est pas évident. Mmh. Donc, il est évident que chaque kilomètre de route a un coût par rapport au lieu, par rapport au paysage, par rapport à toutes les contraintes qu'on trouve sur les lieux. Mais bon, qu'un kilomètre de route soit à $15 million, je voulais bien voir le projet pour en dire un mot.
On va accueillir Jonas de Kananga. Bonjour. Bonjour Jonas.
Oui, bonjour Monsieur Jody. Bonjour à l'invité et à tous les auditeurs.
On vous écoute. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la passation des marchés publics dans le domaine des infrastructures?
Oui, merci Monsieur Jody. Je ne cesserai de le dire, notre pays fonctionne comme un système qui est composé des maillons. Quand il y a un maillon qui se déchaîne, c'est le système entier qui est affecté. Donc le même problème se pose aussi ici au Kassai Central. Particulièrement avec nos amis chinois, la société CREC-7 qui est en train de réfectionner la chaussée, donc les routes. Bon, il y a plus de 2 mois, nous avons constaté que les Chinois ont entrepris les travaux de canalisation. Ils sont en train de creuser des caniveaux ou réfectionner des caniveaux, ainsi de suite. Mais on se rend compte que ça va avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de lenteur. À telle enseigne que les eaux de ruissellement viennent même détruire davantage là où il n'y avait pas de problème. Bon, alors, dans ce cas-là, bon, c'est l'État qui perd ou c'est la société elle-même, parce que la société a signé des contrats avec l'État congolais qui lui a donné des moyens avec lesquels il est en train de construire les routes. Maintenant que les travaux n'avancent pas, bon, s'il y a perte, qui va en partir? Et des deux, nous nous sommes rendus compte que par moment, il y a des problèmes entre la population et la société CREC-7. Lorsque la société CREC-7 est en train de démolir les aqueducs construits en pierre pour remettre les blocs de ciment. Pour la société, il faut laisser les pierres, parce que les pierres ont une certaine endurance en lieu et place des blocs de ciment qu'on est en train de fabriquer localement. Qu'est-ce que l'ingénieur peut conseiller à la population du Kassai Central? Parce que ça fait vraiment des problèmes. Il y a un canal qui est là où on n'a pas continué les travaux, à cause de ce que je venais de dire là, on a détruit les pierres et la population s'est soulevée, la société a arrêté. Et maintenant, ça fait un peu de problème. Qu'est-ce qui peut concerner la population du Kassai Central? Et ce projet-là, parce que l'ingénieur a l'idée là-dessus, ce projet du Kassai Central sur la construction des routes, ça va prendre combien de temps, effectivement? Parce que ça n'avance pas, finalement, on en a marre.
Bien, Ernest, lorsqu'on exécute les travaux publics, il y a un timing qui est donné, mais lorsque ça se fait, il y a lenteur ou soit les chantiers est abandonné. D'après vous, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce genre de situation-là?
Oui, merci beaucoup. Effectivement, lorsque on construit une route, il y a tout un timing et il y a un timing même pour le financement. Dans la plupart des cas, souvent, lorsqu'on signe des contrats, on donne d'abord à l'entrepreneur 40% du montant global. Et lorsque les travaux avancent, on paye encore 30%. Et lorsque on termine tout, il y a des contrôles, on accepte, on certifie la route, on paye les 30% restants.
Et dans le cas d'espèce au Kassai, par exemple, je pense que la société attend que le gouvernement puisse payer les 30%. Et c'est comme ça que souvent les travaux se ralentissent un peu. Même ici à Kinshasa, il y a des travaux qui ont été inaugurés, ça fait plus d'une année, et qui continuent à ne pas être terminés. Pourquoi ? Parce que parfois l'entreprise dit, écoutez, on ne m'a pas encore payé, comment est-ce que je vais faire ? Et si je termine, parfois le gouvernement ne rassure pas. Et tout ça, ça fait que la plupart des travaux se ralentissent et ça, les citoyens commencent à se plaindre que X travaux, X projet n'a pas terminé. Pourquoi ? Parce que le gouvernement n'a pas répondu à temps au timing qu'il a fixé, qu'il a donné à l'entreprise. Mais il y a aussi des cas où on donne de l'argent, on donne peut-être 100% de l'argent si c'est urgent, et parfois l'entreprise utilise cet argent pour autre chose, et après l'entreprise commence à travailler petit à petit. Ce sont des cas qui sont fréquents. Mais s'il y a contrôle, si toutes les institutions contrôlent, si le bureau d'études qui a été choisi pour contrôler les travaux de qualité, les travaux techniques, si le bureau de contrôle fait son travail, il va alerter le gouvernement et le gouvernement pourra prendre des mesures adéquates. Mais si le bureau technique est complice, parce que c'est ce que nous constatons aujourd'hui, nous constatons que le bureau technique qui accompagne le gouvernement, qui doit faire les études techniques, qui doit valiser les études techniques, le bureau de contrôle aussi est dans la corruption,
oui.
Nous assisterons à des travaux qui vont prendre des années au lieu que les travaux puissent se terminer à temps.
Bien, ingénieur Michel Oyombo.
Merci beaucoup, monsieur Jody. Les travaux qui s'exécutent à Kananga avec GELT 7, je crois que c'est dans le cadre du projet Tchilejelou, le projet qui avait été lancé par le chef de l'État, dont je ne connais pas le contour, donc je ne saurais pas vraiment donner assez d'éléments de réponse sur ça, mais je sais au moins que, d'après ce qu'on a suivi par la presse, c'était un partenariat public-privé, où l'État s'était mis dans un partenariat public-privé qui devait apporter de capitaux pour l'exécution de ces travaux-là. Alors,
est-ce qu'il y a eu une passation des marchés publics dans ce cadre-là, non ?
Non, même dans le cadre de partenariat privé, il y a une loi. Il y a une loi sur les partenariats public-privé. Alors, cette loi sur les partenariats public-privé, elle est là. C'est une loi, je crois, de 2018. Je me rappelle bien, oui, c'est une loi de 2018 qui définit comment doit se faire un partenariat public-privé. Donc, s'il y a un problème sur le financement, s'il y a un problème sur l'exécution des travaux, mais il y a des organes de contrôle qui peuvent bien voir qu'est-ce qui se passe, c'était quoi le partenariat, est-ce qu'il y avait une part de l'État, est-ce qu'il y avait une part des partenaires. Donc, je connais pas très bien le contour pour donner le commentaire, mais ce que je peux dire, c'est qu'il est... Il est toujours très inconfortable, surtout quand on travaille sur la voirie, quand vous travaillez dans une ville et que vous vous mettez à barricader certaines routes qui doivent être en exploitation pour les aménager. Mais vous devez faire en sorte à ce que les travaux prennent le moins de temps possible. Et pour que la gêne que vous allez apporter à cette population qui est habituée à utiliser cette route-là soit au fait d'une manière, soit minimale possible. Parce que dans le cas contraire, plus les travaux durent, plus la population se plaint, alors que c'est pour eux qu'on travaille, finalement, ils trouveront peut-être plus d'importance. Ils vont même se révolter pour dire, mais nous n'avons pas besoin de ça. Nous étions, il faut circuler dans la ville pour voir, allez-y vers Victoire maintenant. Vous allez voir une entreprise qui travaille là-bas, qui a...
Il y a des chantiers abandonnés.
Et une entreprise qui travaille, je ne dirais pas chantier abandonné, mais depuis 3 mois, et vous êtes sur 100 mètres, et vous ne terminez pas les travaux, vous avez coupé la route, les gens ne savent pas passer par là. Aujourd'hui, dans la commune de Kalamu, je lisais l'article même ce matin, la population est vraiment totalement désemparée. Vous passez sur chaussée Kimwenza et l'avenue Capella, vous ne savez pas passer par là. Vous venez sur croisement chaussée Kimwenza avec l'avenue Victoire, vous ne savez pas passer par là. Vous voulez prendre l'avenue Victoire, vous ne savez pas par où passer. Finalement, la population s'énerve et se dit, mais pourquoi on est venu faire des travaux alors que notre situation d'avant était de la meilleure que la situation actuelle. Allez-y voir l'avenue Loubefou, non loin de là où nous sommes ici à la Gombe, mais je vous assure, vous ne savez pas passer sur l'avenue.
Tout ça, c'est parce que le décaissement ne vient pas à temps comme prévu.
Mais je ne sais pas ce que c'est pas dans ces travaux-là, mais pourquoi on respecte. Vous savez, dans un contrat, les délais, c'est un élément majeur du contrat. Vous ne pouvez pas exécuter des travaux à durée indéterminée. la durée du contrat est connue. Et s'il y a des retards de paiement ou des retards d'exécution, il y a des pénalités de part et d'autre.
Voilà, il y a des pénalités de part et d'autre. C'est ce qui n'est pas... Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Est-ce qu'il y a déjà eu des pénalités ici parce que les travaux avaient duré? Bon, voilà.
Non, non.
Il y a telle ou telle autre pénalité.
Non, non. Les pénalités, peut-être les entrepreneurs subissent des pénalités pour non-respect de délai. Mais l'État, lui, n'a jamais subi des pénalités pour non-respect des paiements, des respect de délai de décaissement.
Alors, quelles sont les conséquences du non-respect des procédures?
Mais les conséquences sont très nombreuses. Vous pouvez avoir des travaux qui sont inachevés, tout simplement parce que les travaux étaient initiés et qu'il n'y avait pas un budget. Ça aussi, c'est une procédure à respecter. Vous ne pouvez pas initier un projet pour lequel il n'y a pas eu, dans le budget, les travaux n'ont pas été programmés. Donc, dans ce cas-là, vous allez vous rendre compte qu'à la fin de l'année, vous n'avez toujours pas de moyens et les travaux sont bloqués. Vous n'avez pas respecté la procédure. Vous n'avez pas fait un appel à concurrence pour choisir parmi les exécutants le meilleur possible. Mais vous pouvez tomber sur un charlatan. Il y a des entreprises qui se créent pour les besoins de la cause. Vous risquez de tomber sur un charlatan qui n'a peut-être pas la compétence technique, qui n'a peut-être pas la compétence financière et qui n'a pas cette compétence pour exécuter des travaux. Et dans le délai et selon les qualités qui ont été prescrites dans les différents processus. Donc, les conséquences sont très nombreuses. Et d'une part, vous avez des travaux de mauvaise qualité. D'autre part, vous pouvez avoir des travaux inachevés, vous pouvez avoir le non-respect des délais, vous pouvez avoir tout un tas de choses, tout simplement parce que vous n'avez pas voulu respecter les procédures qui ont été établies justement pour encadrer ces secteurs aussi sensibles, ces secteurs pour lesquels plus de 60% du budget de l'État est affecté.
On va accueillir Serge King depuis Kindu. Bonjour Serge, quelle est votre question à propos de la passation des marchés publics dans le domaine des infrastructures?
Oui, le sujet est tellement intéressant, d'autant plus que ce qui est au sujet du jour, c'est à Laïm. Alors, nous félicitons la présence de l'invité au niveau du plateau. Mais, savez, monsieur le journaliste, si on se rappelle bien, la loi numéro 10-0010 du 23 avril 2010 relative aux marchés publics, le système de passation des marchés publics en République démocratique du Congo, selon moi, ne respecte pas les respects stricts par rapport aux lois que nous avions lues, nous avions toujours parcouru à découvrir. Par rapport à ça, mais aussi aux procédures de la passation des marchés publics, qui est un ensemble de règles et de formes de respect à effectuer la passation d'un contrat. Et donc, nous ne sommes pas en mesure à voir que ceux qui sont à la tête d'être à conduire ça en bonne et due forme respectent ça également. Mais aussi, par rapport au principe et au processus généraux de passation des marchés publics, il s'agit d'une méthode appropriée, mais bon, on ne sait pas ce qui se passe maintenant chez nous au Congo. Maintenant, j'ai trois petites questions. J'aimerais demander à l'invité de voir, bien sûr, il a déjà expliqué la passation des marchés publics, c'est quoi. Nous voulons savoir quels sont les modes de passation des marchés publics et comment se fait la passation des marchés publics et pourquoi est important de faire une passation des marchés. Et donc, c'est ça là, trois petites questions que j'aimerais poser à l'invité.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci. Monsieur Ernest Mparero, vous avez la parole.
Effectivement, merci beaucoup. Quel type de passation de marché que la loi dit? Il y a, premièrement, il y a la passation de marché par concurrence, c'est-à-dire on lance un appel d'offres, il y a des entrepreneurs qui souscrivent, qui viennent répondre à l'appel d'offres. Ça, c'est le premier type de passation de marché. Et second type, il y a passation de marché de gré à gré, ou des passations de marché de gré à gré, et c'est permis aussi par la loi, mais il y a toute une procédure qu'il faut faire. Il doit motiver pourquoi il y a des gré à gré. Et tout cela doit avoir une non-objection de la Direction Générale des Passations des Marchés, DGSMP. Il y a aussi une passation des marchés à lice restreinte où le contractant peut dire, écoutez, il choisit déjà des entreprises. Mais tout cela doit aussi répondre à certains critères. Pourquoi on n'ouvre pas les marchés? Pourquoi on choisit la liste restreinte? Et cela doit aussi avoir
la non-objection toujours de la DGSMP. Donc, tous ces genres de méthodes est permis par notre loi, dans la loi sur les passations des marchés, mais on doit motiver et on doit toujours avoir la non-objection de la DGSMP. Et lorsqu'on fait, on ne respecte pas cela, et comme le collègue ingénieur, donc l'autre intervenant, l'ingénieur, a dit, si on ne respecte pas toutes ces procédures, en tout cas, le marché est nil et sans effet. Donc, c'est dans toute la loi, dans notre loi de 2004, c'est la procédure des marchés, ces trois modes est permis. Il y a le gré à gré, il y a la concurrence ou appel d'offres, il y a aussi la liste restreinte, c'est permis, mais on doit motiver et on doit toujours avoir la non-objection de la DGSMP. Parce que lorsqu'on a vu, par exemple, dans les procès 100 jours, où les gens ont dit on a donné de gré à gré, mais ce qui était en train de se passer à Mbujima avec le projet
Tchilegelou,
c'est de gré à gré, non? Il n'y a pas eu appel d'offres. Mais c'est permis, ce n'est pas aussi mauvais. Ça devient mauvais quand? Ça devient mauvais lorsqu'effectivement, il y a celui qui a attribué le gré à gré. Et à la fin, il bénéficie d'une commission retour, où il bénéficie d'un don, où il bénéficie de quelque chose, où on engage ses enfants, où ce sont les entreprises de sa femme qui sous-traitent avec celui qui a gagné. Là, ça devient une infraction. Mais si on a donné de gré à gré et on ne bénéficie absolument de rien, une de ses familles ne bénéficie pas, les amis ne bénéficient pas, les partis politiques ne bénéficient pas, ce n'est pas mauvais. Mais il faut toujours avoir la non-objection de la DGSMP pour que ce mode de passation des marchés soit validé.
Bien, Ernest Imparero, je rappelle que vous êtes président de la Ligue congolaise des luttes contre la corruption, LICOCO, en sigle. Merci d'avoir participé à cette émission. Bonne journée et à la prochaine.
Ok, merci aussi.
Bien, ingénieur Michel Oyumbu, on va conclure avec vous. On retient que le non-respect des procédures dans les secteurs de passation des marchés publics, particulièrement dans le domaine des infrastructures, a des conséquences très graves par rapport à ce que nous voyons sur le terrain. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les solutions que vous envisagez?
Merci beaucoup, M. Jody. Ce qu'il faut faire, c'est que le respect des procédures en matière de passation de marché public fait partie de la bonne gouvernance. C'est un aspect fondamental de la bonne gouvernance. Il appartient donc à Monsieur le Premier ministre, et vers qui je lance cet appel, de réactiver toutes les structures en charge de contrôle des marchés publics. Et pour que ce contrôle-là ait de moyens suffisants de mener des audits, toute la procédure de contrôle qui leur sont reconnues par la loi relative au marché public et toutes les mesures d'application de ces différentes lois. Et c'est ainsi le seul moyen par lequel nous pouvons obtenir des résultats le meilleur. Parce que, il faudrait peut-être le dire, mais c'est jeudi, que notre pays, nous avons un arsenal juridique qui est très bon. Il est très bon en matière de passation, en matière de marché public et de délégation de services publics. Nous avons parcouru beaucoup d'arsenal d'autres pays africains. Je vous assure que le nôtre, il est très bon.
Il est très bon.
Il est très bon. Même si moi-même, je suis parmi ceux qui militent que la loi relative au marché public, la loi 10/010 du 25 avril, doit être actualisée maintenant parce qu'elle a 11 ans. La loi a été promulguée en 2010. Aujourd'hui, il y a des aspects sur lesquels nous pensons qu'il faudrait que l'on revienne pour que l'État y apporte des amendements. Mais la loi que nous avons, elle est très bonne. Mais la difficulté, c'est l'écart entre l'arsenal juridique que nous avons
et l'application.
Et sa mise en œuvre sur le terrain. C'est là où il y a un grand écart. Monsieur le Premier ministre se souvienne que l'autorité de régulation des marchés publics, qui est comme l'IGF, en matière de marché public, relève de son autorité. Donc, si la bonne volonté politique est là, on peut réactiver cette structure de l'État qui pourra très bien jouer son rôle et ça va nous éviter beaucoup de choses que nous voyons sur le terrain.
Ingénieur Michel Oyumbu, président de la Corporation des ingénieurs BTP de la RDC, merci et excellente journée.
Je vous remercie, monsieur.